Comte de Gascogne par Jean-François Bladet. Extrait des Contes merveilleux des pays de France, collecté par Dagmar Fink. Quatrième cassette, deuxième face, suite et fin de La gardeuse de Dindon. Pendant que tout cela se passait, la dernière fille, que son père croyait morte, demeurait toujours comme gardeuse de Dindon dans le château du roi où le valet l'avait placé. Ce roi avait un fils si fort, si hardi, si beau garçon, que toutes les filles du pays en tombaient amoureuses. La gardeuse de Dindon fit comme les autres, mais il ne la regardait même pas. « Mal appris, pensait-elle souvent, je te forcerai bien à me regarder. » Le temps du carnaval arriva. Chaque soir, après souper, le fils du roi s'habillait de neuf et montait à cheval pour s'en aller danser jusqu'au lendemain matin dans les châteaux du voisinage. Que fit la gardeuse de Dindon? Pendant la veillée, elle se dit malade et fit semblant d'aller se coucher. Mais elle descendit secrètement à l'écurie, sella et brida un cheval, lui donna un double picotin d'avoine. Ensuite, elle remonta dans sa chambre, ouvrit la besace où étaient les hardes qu'elle avait rapportées de chez son père. Cela fait, elle se peigna avec un peigne d'or, se chaussa de bas blancs et de petits souliers rouges en maroquin des Flandres, mit une belle robe couleur du ciel, redescendit à l'écurie, sauta sur son cheval et partit au galop pour le château où le fils du roi s'en était allé danser. Quand elle entra dans le bal, les joueurs de vielle et de violon cessèrent de jouer, les danseurs de danser, et tous les invités disaient « Quelle est cette belle demoiselle ?» Enfin, les joueurs de vielle et de violon recommencèrent leur musique, et le fils du roi prit la jeune fille par la main pour la mener à la danse. Mais au premier coup de minuit, elle quitta son danseur, sauta sur son cheval et repartit au galop. Le lendemain, elle s'en alla garder les dindons comme de coutume, et le fils du roi qui la rencontra en allant à la chasse pensa « C'est étonnant comme cette jeune paysanne ressemble à la belle demoiselle que j'ai vue au bal la nuit passée. » Le soir même, après souper, il s'habilla de neuf, monta à cheval et partit encore pour le bal. Que fit alors la gardeuse de dindons? Pendant la veillée, elle se dit malade et fit semblant d'aller se coucher. Mais elle descendit secrètement à l'écurie, sella et brida un cheval et lui donna un double picotin d'avoine. Ensuite, elle remonta dans sa chambre et ouvrit la besace où étaient les hardes qu'elle avait rapportées de chez son père. Cela fait, elle se peigna avec un peigne d'or, se chaussa de bas blancs et de petits souliers rouges en maroquin de Flandre, mit une belle robe couleur de lune, redescendit à l'écurie, sauta sur son cheval et partit au galop pour le château où le fils du roi était allé danser. Quand elle entra dans le bal, les joueurs de vielle et de violon cessèrent de jouer, les danseurs de danser, et tous les invités disaient « Quelle est cette belle demoiselle ?» Enfin, les joueurs de vielle et de violon recommencèrent leur musique, et le fils du roi prit la jeune fille par la main pour la mener à la danse. Mais au premier coup de minuit, elle quitta son danseur, sauta sur son cheval et repartit au galop. Le lendemain, elle s'en alla garder les dindons comme de coutume, et le fils du roi qui la rencontra en allant à la chasse pensa « C'est étonnant comme cette jeune paysanne ressemble à la belle demoiselle que j'ai vue au bal la nuit passée. » Le soir même, après souper, il s'habilla de neuf, monta à cheval et partit encore pour le bal. Que fit alors la gardeuse de Dindon? Pendant la veillée, elle se dit malade et fit semblant d'aller se coucher. Mais elle descendit secrètement à l'écurie, sella et brida un cheval et lui donna un double picotin d'avoine. Ensuite, elle remonta dans sa chambre et ouvrit la besace où étaient les hardes qu'elle avait rapportées de chez son père. Cela fait, elle se peigna avec un peigne d'or, se chaussa de bas blancs et de petits souliers rouges en maroquin de Flandre, mit une belle robe couleur de soleil, redescendit à l'écurie, sauta sur son cheval et partit au galop pour le château où le fils du roi s'en était allé danser. Quand elle entra dans le bal, les joueurs de vielle et de violon cessèrent de jouer, les danseurs de danser, et tous les invités disaient « Quelle est cette belle demoiselle ?» Enfin, les joueurs de vielle et de violon recommencèrent leur musique. Et le fils du roi prit la jeune fille par la main pour la mener à la danse. Mais au premier coup de minuit, elle quitta son danseur, sauta sur son cheval et repartit au galop. En s'échappant, elle perdit dans le bal son petit soulier rouge du pied droit. Depuis le premier jour où la jeune fille avait paru dans le bal, le fils du roi en était devenu si amoureux, qu'il en avait perdu le boire et le manger. Il ramassa le petit soulier rouge et le fit essayer aux demoiselles du bal. Mais toutes avaient le pied trop grand pour le chausser. Alors il mit le petit soulier rouge dans sa poche et s'en revint au château de son père. « Père, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui a perdu ce petit soulier rouge dans le bal. Si vous ne me la donnez pas en mariage, vous serez cause d'un grand malheur. Je m'en irai loin, bien loin, me faire moine dans un pays d'où je ne reviendrai jamais, jamais. « Mon fils, je ne veux pas que tu te fasses moine, » dit le roi. « Dis-moi où cette jeune fille demeure, et nous monterons tous deux à cheval pour aller la demander en mariage à son père. »« Père, je ne sais pas où elle demeure. »« Eh bien, va me chercher le tambour de la commune. » Le jeune homme obéit. « Tambour, voici 100 pièces d'or. Va-t'en crier partout que la demoiselle qui pourra chausser ce petit soulier rouge sera la femme de mon fils. » Le tambour partit et cria partout comme il en avait reçu l'ordre. Pendant 3 jours, le château du roi fut plein de demoiselles qui venaient pour essayer le petit soulier rouge, mais aucune ne pouvait le chausser. La gardeuse de Dindon les regardait faire et riait de tout son cœur. « À ton tour, gardeuse de Dindon, » dit le fils du roi. « Vous n'y pensez pas, monsieur, je ne suis qu'une pauvre petite paysanne. Comment voulez-vous que je fasse ce que n'ont pas pu faire toutes ces belles demoiselles ?»« Allons, allons !» criaient les demoiselles. « Faites approcher cette insolente qui se moquait de nous tout à l'heure. Si elle ne peut pas chausser le petit soulier rouge, qu'elle soit fouettée jusqu'au sang !» La gardeuse de Dindon s'approcha. Du premier coup, elle chaussa le petit soulier rouge. « Et maintenant, dit-elle, attendez-moi tous. » Elle alla s'enfermer dans sa chambrette et revint un moment après, chaussée de rouge des deux pieds, vêtue de sa robe couleur du soleil.
« Mie, dit le roi, il faut que tu épouses mon fils. »
« Roi, je l'épouserai quand il aura le consentement de mon père. En attendant, je veux toujours garder vos dindons. » Alors le roi et son fils se trouvèrent bien embarrassés. Pendant que tout cela se passait, l'autre roi, chassé par ses deux filles, demeurait toujours avec son valet dans sa petite métairie. 20 fois par jour, il disait « Mes deux filles aînées sont des charognes et mes gendres de mauvais sujets. Si j'avais ma dernière enfant, elle me tiendrait compagnie tout en me filant des chemises et en rapiéçant mes habits. Valet, pourquoi l'as-tu tuée? Pourquoi m'as-tu rapporté sa langue ?»«
Maître, c'est vous qui me l'avez commandée. »
« Alors, valet, j'ai eu tort de te le commander. Toi, tu as eu tort de m'obéir.
Excusez, maître, je n'ai pas eu tort, parce que je ne vous ai pas obéi. Votre dernière fille n'est pas morte. Je l'ai placée dans le château d'un autre roi comme gardeuse de dindons. Ce que vous avez pris pour sa langue était la langue de ma chienne.
Tant mieux, valet. Nous allons partir sur le champ pour chercher la pauvrette et la ramener ici.
Ils partirent tous deux sur le champ, et 7 jours après, ils arrivèrent au château du roi.
Bonjour, roi.
Bonjour, mes amis. Qu'y a-t-il pour votre service?
Roi, j'ai été roi moi-même, et j'avais un château aussi beau que le tien. Mes 2 filles aînées m'en ont chassé, et ma dernière est chez toi comme gardeuse de dindons. Il faut que tu me la rendes.
Mon ami, je ne peux pas. Mon fils est tombé amoureux de ta fille au point qu'il en a perdu le boire et le manger. Je te la demande en mariage pour lui.
Roi, fais venir ma fille pour qu'elle parle librement. Je ne veux pas la marier par force.
On alla chercher la gardeuse de dindon. Bonjour, père.
Bonjour, ma fille, parle librement. Veux-tu épouser ce jeune homme?
Le jeune homme était blanc comme farine et tremblait comme une queue de vache. Père, j'épouserai ce jeune homme plutôt que tout autre, mais je veux auparavant que son père et lui vous aident à reprendre le château d'où vous ont chassé mes sœurs aînées.
Alors, le roi et son fils firent rassembler aussitôt tous les hommes du pays et les armèrent de sabres et de fusils. Tout ce monde se mit en chemin pendant la nuit et se rendit maître du château des 2 sœurs aînées qui ne s'attendaient à rien. Ces 2 carognes furent pendues avec leur mari. Voilà qui fut fait.
Alors le roi dit au père de la gardeuse de dindon :
Mon ami, reprends ton château et redeviens roi comme au temps passé. Maintenant, il faut songer à la noce de mon fils et de ta fille.
Jamais les gens du pays ne virent une si belle noce. 100 foudres de vin vieux furent percées. On tua je ne sais combien de veaux et de moutons. Pendant 3 jours et 3 nuits, 100 femmes furent occupées, nuit et jour, à plumer les dindons, les chapons et les canards. Mangeait et buvait qui voulait. Le valet, habillé tout en neuf et luisant comme un calice, se tenait debout derrière la chaise de la mariée et ne la laissait manquer de rien.
Valet, lui dit son maître, c'est la dernière fois que tu sers à table. Je veux te marier aujourd'hui même.
Maître, vous êtes bien honnête.
Valet, nous ne manquons pas ici de jolies filles. Choisis celle que tu voudras.
Le valet choisit une fille jolie comme le jour et sage comme une image. Maître, voici ma femme.
Valet, je veux l'embrasser. Maintenant, mettez-vous tous deux à table avec nous et ne vous laissez manquer de rien. Le curé vous mariera demain matin, je veux être ton parrain et ma fille sera ta marraine.
Le 16e conte s'appelle Le Pou. Pou, P-O-U, bien sûr. Il y avait une fois à Aurinque, A-U-R-E-N-Q-U-E, un meunier et une meunière qui avaient une fille jolie comme un cœur et honnête comme l'or. Chaque jour après dîner, ils l'envoyaient garder leur bétail jusqu'à la nuit dans les prés qui bordent la rivière du Gers. Un soir, la petite meunière, assise au pied d'un vieux saule creux, gardait en filant sa quenouille. Tout en filant sa quenouille, la petite meunière pensait. Aujourd'hui, j'ai 18 ans sonné. Bientôt, quelque beau garçon viendra me demander en mariage à mes parents. À ce moment, un pauvre à grande barbe blanche cheminait le long du Gers, le bâton à la main, la besace sur le dos.
Petite meunière, la charité pour l'amour de Dieu et de la Sainte Vierge Marie.
Tiens, pauvre, voici mon pain.
Petite meunière, merci. Ta charité te sera payée.
Petite meunière, je sais à quoi tu penses tout en filant ta quenouille.
Tu penses, aujourd'hui j'ai 18 ans sonné. Bientôt quelque beau jeune homme viendra me demander en mariage à mes parents.
Pauvre, tu as deviné juste, qui es-tu?
Petite meunière, je suis Jean du Ramier. R-A-M-I-E-R. Petite manière, patience. Tu auras contentement. À ce moment-là, un homme haut d'une toise, c'est-à-dire très grand, 1m95 à peu près, et noir comme l'âtre, sortit du vieux saule creux. C'était Cago Louis d'Or, un gueux plus méchant que cent diables et qui avait grand pouvoir sur terre. Cago Louis d'Or, dans le patois gascon, cela veut dire celui qui chie des louis d'or, qui fait des pièces d'or au lieu de faire des crottes. « Jean Duranier, dit-il, c'est moi qui me charge de trouver le beau jeune homme qui viendra demander la petite meunière en mariage à ses parents. » Cago Louis d'Or rentra dans le vieux saule creux et Jean Duramier reprit son chemin le long du Gers. Alors la petite meunière ramena son bétail à l'étable. Chemin faisant, elle pensait « Il se prépare pour moi de bien tristes choses. » C'était vrai. Une heure après le coucher du soleil, la petite meunière soupait avec ses parents. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre sur le toit du moulin. La cheminée fumait. Par le tuyau tomba dans la chambre un homme haut d'une toise et noir comme l'âtre. C'était Cago Louis d'Or. « Bon appétit, brave Jean. J'apporte un mari pour la petite meunière. » Cago Louis d'Or tira de sa poche une boîte, l'ouvrit et jeta sur la table un pouls gros comme un haricot. « Tiens, petite meunière, voici le beau garçon qui vient te demander en mariage à tes parents. Jean Duramier l'avait choisi jeune, fort et hardi. Mais moi, j'en ai fait ce que tu vois. Petite meunière, approche. Je vais arracher 3 cheveux de ta tête. 1, 2, 3. » Pour les cacher où il me plaira. Dans 3 jours, je reviendrai. Si tu devines alors où sont cachés les 3 cheveux, ton pouls redeviendra sur le champ un beau garçon, jeune, fort et hardi. Sinon, je te condamne à l'épouser tel qu'il est, tel qu'il restera jusqu'à la mort. Tandis que Cago Louis d'Or parlait ainsi, le pouls ne perdait pas son temps. Il grimpait sans être vu jusque dans l'oreille de la petite meunière. Alors il lui souffla doucement, bien doucement. « Petite meunière, n'aie pas peur. Laisse faire Cago Louis d'Or. Tes 3 cheveux cachés, je me charge de les retrouver. Ainsi je redeviendrai un beau garçon, jeune, fort et hardi. » « Cago Louis d'Or, dit la petite meunière, voici ma tête. Prends-y ce qu'il te faut. » Tandis que Cago Louis d'Or arrachait les 3 cheveux de la tête de la petite meunière et les enroulait autour d'un petit morceau de bois, le pouls ne perdait pas son temps. Il descendait de l'oreille de la jeune fille et se logeait dans les cheveux de son ennemi. Ainsi caché, il écoutait et regardait sans être vu. Cago Louis d'Or partit. Toute la nuit, il marcha du côté du midi, du côté de la ville d'Auch, A-U-C-H. Juste à la pointe de l'aube, il était à Auch, au quartier de Saint-Pierre, tout proche d'un puits profond et noir. Là, il regarda tout autour de lui pour voir si nul ne le guettait, prit un des cheveux de la petite meunière et le jeta dans le puits. Mais le pouls, logé dans les cheveux de Cago Louis d'Or, écoutait et regardait sans être vu. Le premier cheveu ainsi caché, Cago Louis d'Or s'en alla boire et manger dans une auberge. Puis il entra dans la cathédrale de Sainte-Marie, se cacha au bon moment dans une pile de chaises et s'endormit. Mais le pouls, logé dans les cheveux de Cago Louis d'Or, écoutait et regardait sans être vu. Sur le premier coup de minuit, Cago Louis d'Or se réveilla. Il sortit de sa cachette, alluma un cierge à la lampe du sanctuaire, enfonça d'un coup d'épaule la porte qui s'ouvre sur l'escalier des tours, monta jusqu'aux cloches, prit un autre des cheveux de la petite meunière et le noua autour du battant du grand bourdon, la grosse cloche, la plus grosse cloche de l'église. Mais le pouls, logé dans les cheveux de Cagoule-Louis d'Or, écoutait et regardait sans être vu. Cela fait, Cagoule-Louis d'Or rentra dans sa cachette pour ne s'échapper qu'au bon moment, juste à la pointe de l'aube, tandis que le carillonneur sonnait l'Angélus. Mais le pouls, logé dans les cheveux de Cagoule-Louis d'Or, écoutait et regardait sans être vu. Cagoule-Louis d'Or s'en revint boire et manger à son auberge. Puis il repartit sans trop savoir où il allait. Attention, se disait-il en marchant. Tâche de cacher encore mieux que les autres ce dernier cheveu de la petite meunière. Tout le jour et toute la nuit, tout le lendemain, Cagoule-Louis d'Or chemina sans jamais pouvoir se décider à choisir une cachette. Au coucher du soleil, il regarda autour de lui dans la campagne. Sans le savoir, il était revenu tout proche d'Aurin.
Mille dieux ! Les trois jours vont être passés. Je n'ai pas encore choisi la cachette du dernier cheveu de la petite meunière. Bah ! Le mieux est encore de le laisser dans ma poche. Bien fin qu'il y devinera !
Et Cagoule-Louis d'Or laissa dans sa poche le troisième cheveu de la petite meunière. Mais le pouls, logé dans les cheveux de Cagoule-Louis d'Or, écoutait et regardait sans être vu. Doucement, bien doucement, il descendit dans la poche, déroula le troisième cheveu, le noua autour du corps de Cagoule-Louis d'Or, et cela fait, il remonta vite à son poste. Une heure après le coucher du soleil, la petite meunière soupait avec ses parents. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre sur le toit du moulin. La cheminée fumait, et par le tuyau tomba dans la chambre un homme haut d'une toise et noir comme l'âtre. C'était Cagoule-Louis d'Or.
Bon appétit, braves gens! Petite meunière, les trois jours sont passés. Si tu devines où sont cachés tes trois cheveux, ton pouls redeviendra sur le champ un beau garçon jeune, fort et hardi. Sinon, je te condamne à l'épouser tel qu'il est et tel qu'il restera jusqu'à sa mort.
Tandis que Cagoule-Louis d'Or parlait, le pouls ne perdait pas son temps. Sans être vu, il quittait son poste, grimpait jusque dans l'oreille de la petite meunière et lui soufflait doucement, bien doucement.
Petite meunière, n'aie pas peur, je sais où sont cachés tes trois cheveux. Adroitement, bien adroitement, prends-moi dans ton oreille et porte-moi dans ta bouche. Là, c'est moi qui me charge de répondre aux questions de Cagoule-Louis d'Or.
La petite meunière obéit et resta la bouche ouverte.
Petite meunière, dit Cagoule-Louis d'Or, dis-moi où j'ai caché le premier de tes trois cheveux.
Cagoule-Louis d'Or, répondit le pouls, le premier de mes cheveux, tu l'as jeté dans le puits d'un jardin, dans un puits profond et noir, à Auch, au quartier de Saint-Pierre.
Ah, 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 ah. Petite meunière, dis-moi où j'ai caché le second de tes cheveux.
Cagoule-Louis d'Or, le second de mes cheveux, tu l'as noué autour du battant du grand bourdon de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch.
Ah,
Petite manière, dis-moi où j'ai caché le dernier de tes cheveux.
Cagoule d'or, le dernier de mes cheveux, il est noué autour de ton corps.
Petite manière, tu as menti. Le dernier de tes cheveux, je l'ai laissé dans ma poche.
Cagoule d'or, c'est toi qui as menti. Regarde. Pendant qu'il regardait, Jean Duramier entra. Petite meunière, dit-il, Cagoule d'or a perdu son pouvoir. Crache ton pouls. La petite meunière obéit. Aussitôt craché, le pouls redevint un beau garçon, jeune, fort et hardi. Maintenant, le cheveu noué autour du corps de Cagoule d'or était long, gros et fort comme un câble. Jean Duramier attacha solidement son ennemi à un pilier de la chambre. « Hardi, mes amis » cria-t-il, « prenons un bâton chacun et frappons à grand tour de bras sur l'échine de Cagoule d'or. » Le meunier, sa femme, sa fille et le beau garçon obéirent. « Pan, 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 pan !» À chaque coup de bâton, un double louis d'or tombait du cul de Cagoule d'or. « Hardi, mes amis !» Enfin, Cagoule d'or ne chia plus. Alors, Jean Duramier le détacha du pilier. « Décampe, bandit! Tu n'as plus rien dans le ventre et tu as perdu le pouvoir de mal faire. Et vous, mes amis, ramassez tous ces doubles louis d'or. C'est pour la petite meunière. Pas plus tard que demain, j'entends qu'elle épouse ce beau garçon. » Ce qui fut dit, fut fait. Après la noce, Jean Duramier prit sa besace et son bâton. « Adieu, mes amis. Vivez riches, heureux et contents. Moi, je pars. J'ai des affaires ailleurs. » Et Jean Duramier partit. On ne l'a revu jamais, jamais. Fin de l'histoire du pouls et fin de la deuxième face de la quatrième cassette des Contes de Gascogne de Jean-François Bladet, extrait des Contes merveilleux des pays de France, collecté par Dagmar Fink. Laisse la cassette se dérouler jusqu'au bout.